Qui a peur d'Angela Davis? Une grande traversée de Sébastien Thème et d'Ify Mariani. Troisième épisode, Superstar.
Angela Superstar, c'est quelque chose qui à la fois me gêne et en même temps qui peut-être peut nous dire quelque chose sur ce que la marchandisation de la lutte politique aux États-Unis, en particulier à cette époque-là, a fait au mouvement radical noir et en même temps ce que le mouvement radical noir en a fait.
Sylvie Laurent, historienne.
À partir de cette image de la photo de garde à vue, qui a fait de Angela Davis une criminelle et qui a utilisé le fait qu'elle porte les cheveux naturels comme une espèce de symbole marketing et en même temps de son caractère sulfureux. C'est quelque chose qui a échappé à la police, qui a échappé au FBI pour devenir un de ces objets culturels qui sont disséminés dans l'opinion publique et qui finalement gagnent leur propre existence, leur propre vie. Il y a eu une espèce de prise de pouvoir de cette image malgré ce que ses créateurs avaient voulu en faire.
How to build a movement here in the Bay Area to support and defend our sisters and brothers who were.
On est déjà là au cœur d'une forme de représentation qui la marque d'une certaine façon à vie et à jamais.
Elvan Zabounian, historienne de l'art.
Puisque ces photographies sont celles qui vont circuler beaucoup et puis surtout ce que fait aussi le gouvernement, puisque voilà, Nixon est derrière, enfin tout le monde est derrière en fait, et ce qu'ils vont faire aussi c'est d'alerter les médias. Et en 1970, donc au moment où elle est recherchée, le Life magazine va mettre la photo d'elle en tant que fugitive, avec l'expression d'une fugitive en gros plan, et en fait l'image sur la couverture de Life magazine, qui à l'époque est lue par sans doute des millions de personnes, donc l'effet est beaucoup plus efficace. On voit son visage de profil et on voit l'image presque aux trois quarts habitée par ses cheveux. Donc il y a aussi une construction de sa personnalité qui va passer par cet afro, cette coiffure afro qui est celle qui va la définir et qui va permettre aussi un nombre considérable de représentations très stylisées.
Et puis, il faut bien dire qu'elle porte beau. Il faut bien dire que cette femme qui respire l'insolence et l'indignation, elle est idéale à un moment où on se cherche un visage. Et donc, en effet, on reproduit le visage d'Angela Davis aux quatre coins du monde pour exprimer par procuration le désir de justice et le désir de révolution. Donc cette image, en effet, c'est à la fois la marchandisation et ce que les images font à la lutte politique, c'est-à-dire qu'elles peuvent la réduire à un objet marketing. Et en même temps, elle a servi la cause, cette image. Si bien qu'Angela Davis elle-même, qui n'aime pas trop cette image, dit « Je n'y peux rien, cette image est un objet qui existe en dehors de moi ». Et il est certain qu'elle a porté la voix d'Angela Davis, malgré Angela Davis.
Richard Nixon, président des États-Unis.
Monsieur Kennedy, mesdames, messieurs, je suis présent aujourd'hui au département de la justice pour voter la loi sur le crime organisé. Les efforts du FBI pour arrêter Angela Davis s'inscrivent dans une remarquable série d'arrestations très bien menées. Cela prouve une chose. Quand le gouvernement, à travers le FBI, s'empare d'une affaire, nous nous engageons à ce que les terroristes soient traduits en justice.
Je me considère comme prisonnière politique, comme je considère des milliers de prisonniers en ce moment comme prisonnière politique. J'étais arrêtée à cause de mes idées politiques, à cause de mes activités politiques. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont en prison pour la même raison.
Je venais d'être capturée. Un procès m'attendait en Californie sur les accusations de meurtre, kidnapping et conspiration. La condamnation pour une seule de ces charges pouvait mener à la chambre à gaz. On aurait pu penser que c'était une défaite immense. Pourtant, À ce moment-là, je me sentais nettement mieux que depuis bien longtemps. La lutte allait être difficile, mais elle portait déjà en elle l'espoir d'une victoire. Dans le lourd silence de la prison, je découvrais qu'en me concentrant suffisamment, je parvenais à entendre l'écho des slogans qui étaient scandés de l'autre côté des murs. Libérer Angela Davis. Libérer tous les prisonniers politiques. Nom, adresse, âge, lieu de naissance, arrestations antérieures, identité, empreinte digitale. La prison tout entière était plongée dans l'obscurité quand je finis par arriver dans une cellule. Elle n'avait pas plus d'un mètre et demi de large. Pour seul mobilier, une couchette métallique, fixée au sol, et des cabinets sans siège près du lit. La première nuit, je ne dormis pas. Les cris, la résonance métallique, le cliquetis des clés. J'avais l'impression d'avoir été plongée dans un cauchemar.
Angela Davis a comparu devant le tribunal où un juge a été tué l'été dernier lors d'une tentative avortée d'enlèvement. Le dispositif de sécurité déployé était très important. Chaque spectateur a été fouillé. Il y a eu une explosion et de multiples alertes depuis l'assassinat du juge. Mademoiselle Davis est entrée, elle a fait le salut du Black Power au public de journalistes. Puis, elle s'est assise aux côtés de ses avocats. Le juge a demandé une copie du chef d'accusation et dit qu'elle avait droit à un avocat et à un procès devant jury.
5 janvier 1971. Quelqu'un pressa sur un bouton et la porte de la section des femmes s'ouvrit en glissant. Je me rendais au tribunal, où j'allais être inculpée officiellement par l'État de Californie de meurtre, kidnapping et conspiration. Je marchais lentement dans les couloirs souterrains des prisonniers. Puis, fus dirigée dans une salle d'attente. Quelques minutes plus tard, le capitaine Teague ouvrit la porte et dit « Mademoiselle Davis, vous pouvez entrer maintenant. » Au moment où j'entrais dans la salle du tribunal, ce fut un tonnerre d'applaudissements et je fus un instant aveuglée par les flashs. J'essayais d'apercevoir des visages familiers et levais le poing pour les remercier de leur accueil.
D'abord, nous parlons de construire un mouvement de masse. Parce que, en fin de compte, nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de pouvoir économique, nous n'avons pas de pouvoir politique. Alors, il doit utiliser nos corps, nos talents, notre énergie collectivement.
Le Comité national uni pour la libération d'Angela Davis fut mis en place. Il était dirigé par ma sœur Fania et mon camarade Franklin Alexander. 2 jours après mon arrivée, ils organisèrent une manifestation devant la prison. Les murs de ma cellule sans fenêtre étaient bien trop épais pour laisser passer leurs slogans. Mais il me semblait les percevoir. Libérez Angela Davis, libérez tous les prisonniers politiques. Et cela me rendit heureuse et forte.
On s'est entretenu avec Angela. Elle est très confiante. Elle se sent bien. Elle se sent bien parce qu'elle sait que le mouvement en faveur des prisonniers politiques grandit. Voilà pourquoi elle se sent bien.
Les conditions d'incarcération à la prison de Santa Clara étaient déplorables. Avec Margaret Burnham, mon avocate, nous décidâmes de dessiner le plan de la cellule et de l'accompagner d'une description pour le communiqué de presse et les tracts sur les conditions de ma détention. Le comité de soutien était en train de mettre la machine en route. Il y avait dans tout le pays, et même dans d'autres pays, des gens qui recevaient des communiqués sur les conditions dans lesquelles j'étais détenue.
Bettina Aptaker, militante.
Il y avait des communistes partout dans le monde. Ils ont fait campagne et très vite, ça a fait boule de neige. Partout, les gens se sont émus du sort d'Angela.
En quelques heures, les télégrammes et les coups de téléphone envahirent le bureau du shérif. Il répondit à ces protestations massives et ordonna quelques changements. Alors que les conditions de mon incarcération s'amélioraient, une profonde tristesse s'abattit sur moi. Ce qu'on avait fait pour moi, pour l'instant, on ne l'avait fait que pour moi. Mais j'étais hantée par le spectre des autres prisonnières et prisonniers dont la vie s'usait dans d'autres prisons. Rachel, Flita, John, Larry Justice, Mary Hill, les frères d'Attica, leurs noms m'obsédaient. L'énergie extraordinaire du mouvement qui avait transformé si rapidement mes conditions d'incarcération, les sœurs et les frères incarcérés y avaient droit. Ce fut là que je décidais, à ce moment-là, que si jamais j'étais libérée, je mettrais ma vie au service de la cause des sœurs et des frères qui se trouvaient derrière les murs.
Aujourd'hui, la chambre verte de San Quentin est vide, inutilisée. La Cour suprême de Californie a interdit la peine de mort, jugeant cette sanction cruelle et inadaptée.
Un matin de bonne heure, au réveil, j'ouvris le poste de radio. Il y avait des informations. Hier soir, la Cour suprême de l'État de Californie a voté l'abolition de la peine de mort, la déclarant cruelle et de ce fait anticonstitutionnelle. Au début, je crus que j'avais mal compris. La peine de mort était abolie. J'étais maintenue en prison dans l'attente de mon procès parce que j'étais accusée d'un crime capital. Maintenant, il n'y avait plus de crimes capitaux. J'étais donc juridiquement en mesure d'être libérée sous caution.
After a tense day of closed door conferences, Judge Richard Arneson ruled Miss Davis should be freed from jail. It was the first legal fallout from the death penalty ruling.
Je me demandais pourquoi le juge avait fini par se décider à me relâcher si vite. La décision de la Cour suprême d'abolir la peine de mort en Californie ne prenait effet que dans 90 jours. Et le juge aurait tout à fait pu attendre de me relâcher à ce moment-là. Ce n'était pas la loi. Il n'y avait qu'une explication.
Si je suis acquittée, ça ne sera pas du tout à cause du système de justice américain. Ce sera à cause du mouvement de masse que les gens ici sont en train de construire partout dans les États-Unis et partout dans le monde. Ce sera une victoire du peuple.
La véritable raison pour laquelle il s'était senti obligé de nous accorder une décision favorable avait quelque chose à voir avec la campagne de ma défense. Le juge avait évoqué l'important courrier que j'avais reçu ces derniers jours, et les coups de téléphone qui venaient d'un nombre incroyable d'États, et les télégrammes des pays étrangers. Le juge n'avait pas l'intention d'avouer qu'il cédait à la pression publique. Mais il était clair que l'action énergique de millions de gens l'avait influencé.
La parole à Fania Kelly.
I did study here in Paris. I've made many
J'ai étudié à Paris.
et suis souvent venu en France. Quand j'ai été emprisonné et inculpé pour 3 crimes majeurs, les Français ont manifesté leur opposition. Par exemple, ma sœur s'est rendue à Paris en 1970 ou 1971 et elle était en tête de cortège avec Louis Aragon lors d'une manifestation qui a réuni plus de 100 000 personnes dans les rues de Paris. Je suis donc très reconnaissante aux Français d'avoir joué un rôle aussi important dans la campagne pour ma libération.
J'ai été à des centaines de manifestations dans toutes les grandes villes des États-Unis. J'ai assisté à des manifestations à l'étranger pour Angela. Mais je dois vous dire que celle-ci est l'une des plus importantes et des plus émouvantes.
Angela Davis, évidemment, c'est à partir de son arrestation, à partir de...
Christiane Taubira, femme politique.
De son périple, de son parcours tout à fait singulier, que je m'intéresse à sa pensée. Et ça va me suivre, puisque entre-temps, je passe le baccalauréat, entre-temps, je viens faire mes études à Paris, entre-temps, je me mobilise dans toute la campagne Free Angela. Je me retrouve donc dans tout le réseau d'associations qui organisent son arrivée à Paris. Je la rencontre à cette occasion-là, puisque je participe à l'organisation et je suis dans les premiers rangs dans la salle. Donc sa pensée, sa parole, son parcours aussi est déjà extrêmement signifiant.
Monsieur François Mitterrand a tenu ce matin une conférence de presse.
Vous savez, Geekless. À travers le monde, chaque jour nous apprenons que des hommes, que des femmes sont frappés dans leurs convictions, qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion. Nous sommes parmi les défenseurs d'Angela Davis, qui est noire et communiste, et qui est l'objet d'un procès aux États-Unis d'Amérique.
Je lui dois ma construction, une bonne part de ma construction intellectuelle. Elle a risqué la mort. Elle a risqué la mort, elle a risqué la peine capitale. Elle a même risqué, je crois que c'est dans son autobiographie qu'elle raconte, comment elle fait attention lorsque la FBI l'arrête. Elle fait attention à ne pas avoir un geste mal placé, en tout cas, qui justifierait, qui servirait de prétexte à ce qu'on la batte sur place. Elle a conscience de ça, elle a 25-26 ans, elle a conscience de ça. Donc moi, je lis tout ça quand je suis toute jeune, ça construit, y compris à votre insu, vous êtes construit. En tout cas, si vous ne rejetez pas, vous êtes construit par le fait qu'une personne qui risque sa vie ne renie pas ses convictions. Vous savez confusément qu'il est plus simple de dire « ben non, je me suis trompé, c'était une erreur de jeunesse », c'est plus simple de dire ça. Non, le risque, c'est la mort, et pourtant, elle assume, et puis elle assume un positionnement politique. Enfin, être communiste aux États-Unis dans les années 70, même aujourd'hui, ça provoque de l'hystérie. Même aujourd'hui, être communiste aux États-Unis, ça provoque de l'hystérie. Donc, à l'époque, elle est quand même militante communiste. Elle est chez les communistes et chez les Black Panthers. Il faut vraiment chercher les tracas, quoi.
Ça a été une victoire pour le peuple, pas seulement parce que j'ai été libérée sous caution, mais ça veut dire que l'appareil judiciaire ne peut plus garder les prisonniers politiques en prison pendant de longs mois avant le procès, en les isolant ou en utilisant d'autres moyens pour briser leur volonté de se battre.
À ce moment-là, elle devient une superstar. Et en fait, voilà, l'Allemagne de l'Est a été un grand soutien pour Angela Davis, puisque c'était une Allemagne communiste à l'époque. Et en tout cas, il y a une école à Dresde qui a choisi d'envoyer 1 million de roses à Angela Davis. Et c'est des cartes postales que les élèves de cette école de Dresde ont écrite avec des mots « Angela Davis, tu n'es pas coupable, tu vas être libérée ». Et en fait, toutes et tous ont dessiné des roses. Et ce projet, 1 million de roses pour Angela Davis, quand elle était emprisonnée, elle a vraiment reçu plus d'un million de cartes postales. Alors peut-être pas de ses enfants d'Allemagne de l'Est, mais en tout cas du monde entier. Donc il y a des traces, il y a des archives qui restent de cela aussi. C'est ça qui est fort, c'est-à-dire que la prison a dû être submergée par toutes ces cartes postales qui arrivent avec les roses et tout ça. Et un million, c'est quand même pas anodin en fait comme chiffre.
The campaign around the demand for my freedom was absolutely amazing.
La campagne pour obtenir ma libération a été absolument stupéfiante.
At the time, I was charged with 3 capital crimes.
À l'époque, j'étais inculpée de 3 crimes capitaux.
And even people who knew that I wasn't guilty.
Et même les gens qui me savaient innocente se demandaient comment j'allais bien pouvoir me sortir de cette situation.
For me to extricate myself from that situation.
Parce que tous les pouvoirs en place, le président des États-Unis, le gouverneur de Californie, le directeur du FBI, ils étaient tous contre moi. Or, il était possible de générer un mouvement partout dans le pays, partout dans le monde. Grâce à toutes les organisations qui ont été impliquées, notamment le Parti communiste. J'étais membre du parti. Dans tous les pays où il y avait un parti communiste, il y a eu une campagne pour libérer Angela Davis. Et pour moi, ces images symbolisent la puissance des masses quand elles se rassemblent et leur capacité à réussir ce que l'on croyait impossible.
C'est une personnalité qui a toujours travaillé et œuvré pour les autres. Elle ne comprenait pas pourquoi, justement, c'était elle, alors qu'il y avait tellement de personnes qui étaient incarcérées, pourquoi c'était elle qui était au cœur de cette attention. Et très rapidement, elle a demandé de changer, en fait, l'intitulé. Et ce n'était pas « Free Angela Davis », mais c'était « Free Angela Davis and all political prisoners ». Donc, c'est-à-dire que pour elle, elle et tous les prisonniers politiques devait avoir un traitement identique. Mais évidemment, dans une société de consommation comme celle des États-Unis, société médiatisée, c'est la société du spectacle de Guy Debord, absolument, à ce moment-là. Donc, on est dans un moment où la publicité, la médiatisation, et puis c'est le système aussi aux États-Unis, le système de starification, ça isole nécessairement. C'est-à-dire que l'idée du collectif... c'est d'abord le patriotisme aux États-Unis, mais l'idée du collectif tel que Angela Davis le défend, qui est vraiment dans un concept communiste au premier sens du mot, donc s'appuyant sur la distribution du capital à toutes et tous, il est évident que dans ce cadre-là, cette starification ou cette figure qui devient iconique, peut-être parce que, bon, déjà, elle a une puissance aussi... d'oratrice très forte. C'est pas pour rien que c'est cette image d'elle devant un micro, la bouche ouverte, en train de parler fort qui circule. D'ailleurs qu'elle est un porte-voix aussi d'une certaine façon. From say myself, who's a member of the Communist Party, to John Conyers, who is a member of the Congressional Black Caucus in Washington.
You know, you mentioned celebrity. She did have a kind of mellifluous voice that sounded.
Elle avait le genre de voix mélodieuse qu'inspire une personne qu'on admire. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement.
David Marcus, journaliste.
L'impact qu'elle avait. Elle était d'une beauté frappante en ce temps-là, et elle l'est toujours. On ne voit pas beaucoup de gens comme elle, que l'on parle de sa coiffure, de sa manière de s'habiller. C'était une femme unique. Et c'est toujours le cas, à mon avis. Le son de sa voix. Je me rappelle quand elle prenait la parole en public à l'époque, sa manière de s'adresser aux gens, de s'investir totalement, toute la puissance de sa voix, cela produisait un effet très impressionnant et très efficace.
Not only in the sense that I am now out on bail, but it means that the legal apparatus can no longer hold political prisoners in prison for long months prior to trial and attempt by isolating them and in many other ways to break their will to fight.
En 1972, c'est en plein moment où les artistes se mobilisent de façon massive pour représenter Angela Davis, puisque la plupart de ses représentations sont aussi déclinées en tant qu'affiches et distribuées et vendues ou collées ou voilà. Il y a cette photographie qui est devenue vraiment iconique de Stephen Shames, qui est cette image d'elle où on la voit avec le micro, avec l'afro, où elle est en train, la bouche ouverte, en train de faire un discours. Et c'est cette image-là, en fait, qui a été reprise, donc qui a été très vite choisie, pour être déclinée à la fois comme poster. On voyait cette image aussi sur les pins, donc sur les flyers, sur les documents politiques.
Elle a quand même trôné au-dessus de ma tête une grande partie de mon adolescence dans ce poster très célèbre où elle était avec sa magnifique coiffure afro qui dessinait comme ça, comme une sorte de nimbe, comme une sorte de sainte un peu, oui, comme une auréole.
Gilles Leroy, écrivain.
Une vraie icône au sens strict du terme, et avec les mots Free Angela en dessous. Et donc, c'est fait partie de ces gens qui vous sont familiers sans les connaître. Et donc, Angela, oui, pendant des années, a été à la tête de mon lit.
On ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Et peut-être bien que vous serez tous d'accord. La liberté d'acheter la bébé et de tous les noirs en prison. La liberté d'acheter la bébé et de tous les noirs en prison.
La liberté d'acheter la bébé et de tous les noirs.
Honnêtement, faut dire la vérité, on était tous un peu des zozos, c'est-à-dire que on s'attachait à la figure de la rebelle. Pareil pour le Che, on était un peu aveugle quand même. Mais pour Angela, on n'avait aucune... Mais on savait même pas d'où elle venait. Concrètement, on ne savait pas qu'elle était... Moi, je savais pas qu'elle était étudiante en philo. Je connaissais pas sa pensée profonde. Pas plus que je ne connaissais la doctrine des Black Panthers en précisément. Simplement, c'était une figure rebelle, voilà. Et en ressongeant à elle, hier, je me disais... En fait, cette... Et à cette image que j'avais au-dessus de mon lit, c'est étrange parce que cette coiffure afro, ça dessinait en fait comme une sorte de point dressé. Vous voyez, c'était rond comme un point dressé. Et ça, je trouve que c'est dessine un profil comme ça. Et c'est comme, je me souviens d'elle un peu comme ça. Et puis après, bien sûr, en grandissant, en étudiant, j'en ai su plus sur ce qu'elle pensait, puisque c'est une grande penseuse, une grande intellectuelle. Mais au départ, c'est vrai qu'adolescent, on était juste, je pense, rivé à sa beauté, parce qu'elle était très 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 belle, et à la beauté de cette rébellion.
Je pense que l'ampleur autour de libérer Angela Davis, c'est à deux tranchants.
Mélissa Laveau, musicienne.
Quand elle est en prison, elle est très fine, très grande, très élancée, avec des traits assez, des joues saillantes. Elle ressemble à une mannequin avec un afro. Les gens, ils ont vu une belle jeune femme, déjà, qui est très éloquente, qui parle très bien et qui ressemblait à pas mal d'étudiants en termes d'esprit, qui a un peu été la voix d'une génération.
San José en Californie a bien changé en 20 ans. Ce centre agricole, autrefois prospère, est devenu une banlieue de San Francisco. 85% de ses habitants sont blancs, 10% portent un nom hispanique et moins de 2% sont noirs. C'est ici que se tiendra le procès d'Angela Davis. Le décorum propre au procès médiatisé est en train d'être planté. Plus de 300 journalistes ont demandé une accréditation. 750 000 dollars ont été alloués à la sécurité et aux équipements pour les médias. Des barrières de sécurité ont été posées à l'intérieur et à l'extérieur du tribunal. La salle d'audience ne compte que 60 places pour le public et la presse. Les deux parties répondront aux questions jour après jour dans la salle d'audience. C'est ici que se tiendra le procès d'Angela Davis. Ce procès devrait durer de 6 à 9 mois.
C'était le jour d'ouverture du procès. Maintenant, enfin, nous en étions au combat final et décisif.
Je crois que si j'étais jugée dans une manière juste, je serais acquittée. Le problème, c'est que je vais être jugée, j'en suis sûre, par 12 résidents de Santa Clara County. Ils seront être blancs, j'en suis pratiquement sûre. À San José, il n'y a presque pas de noirs. Et presque tous les Mexicains, les Chicanos, ne sont pas registrés comme électeurs. Ils ne peuvent pas servir sur le jury.
Mon avocat, Leo Branton, prononça la plaidoirie finale de la défense.
J'ai dit au jury, je veux que vous jouiez un rôle avec moi. Pendant un instant, pensez comme une personne noire. Mettez-vous dans la peau d'un noir. Rassurez-vous, vous redeviendrez blanc à la fin de ce jeu de rôle. Vous êtes noir. Vos aïeux sont arrivés dans ce pays comme esclaves. Et la Cour suprême des États-Unis a décidé qu'aucun des droits des personnes noires n'avait besoin d'être respecté par les blancs. Une intellectuelle comme Angela Davis savait cela. Elle savait aussi que dans les années 60, chaque fois qu'une personne noire a élevé la voix pour défendre la liberté des Noirs, elle a été assassinée. Si vous étiez conscient de tout cela, si vous étiez Angela Davis, si vous étiez noire, vous comprendriez pourquoi elle a fui. Et vous vous demanderiez comment elle a pu se permettre de se faire arrêter.
Nous prîmes place dans la salle du tribunal. Mes avocats, Howard, Dobie et Léo, s'assirent à la table, et moi, contre la barrière, entourée de Margaret et de Kendra. L'huissier annonça l'entrée du juge, puis le jury commença à passer la porte. Le premier chef d'accusation était le meurtre. Le non-coupable sonna haut et clair.
Les présomptions accumulées contre Angela Davis sont toujours restées des présomptions et n'ont jamais pu devenir des preuves.
Le second chef d'accusation était le kidnapping. Le non-coupable sonna à nouveau.
Que la jeune femme ait acheté une arme et que Jonathan Jackson s'en soit servi dans la tuerie qui devait amener l'arrestation de la jeune militante ne signifiait pas non plus qu'elle était une complice. Jonathan Jackson pouvait fort bien avoir volé l'arme.
Il fallait que j'entende le dernier verdict, celui sur la conspiration. Quand le greffier lut « non coupable » pour la troisième fois, nous laissâmes éclater notre joie. Le juge remercia la défense, l'accusation et les jurés, démit ces derniers de leurs devoirs et déclara close l'affaire numéro 52-613. État de Californie contre Angela Yvonne Davis.
Et la voici, voici Angela Davis, très émue, qui déclare, écoutez-la. C'est le jour le plus heureux de ma vie, mais je suis sûr que tous ceux qui m'ont aidé dans ce pays et dans le monde entier se réjouissent aussi. Non seulement de ma mise en liberté. Parce que maintenant, la lutte commence, la lutte continue pour libérer tous les prisonniers politiques qui sont ici, les prisonniers politiques qui sont dans tous les autres pays du monde et pour libérer les peuples opprimés.
Aujourd'hui libérée, Angela Davis a conscience de l'importance de ce verdict, mais pour elle, le combat est loin d'être terminé, c'est ce qu'elle a déclaré à sa sortie du tribunal.
C'est pas seulement le jour le plus heureux de ma vie, mais je suis sûr que tous les gens à travers le monde entier qui se sont battus pour ma liberté voient cela comme l'exemple de toutes les victoires qui vont arriver. Car à partir d'aujourd'hui, il va falloir libérer tous les prisonniers politiques, toutes les personnes oppressées dans ce pays et à travers le monde entier.
Une foule s'était rassemblée devant le tribunal. Dès qu'ils avaient entendu le verdict, les gens étaient venus de toutes parts. Le silence réglementaire et les restrictions de la liberté sous caution étaient derrière nous, et je pus enfin parler devant la foule. Je les remerciai d'être venus, de m'avoir soutenu, et leur dis qu'il était temps de déployer nos forces pour la libération de tous les prisonniers politiques.
Je crois qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a beaucoup de gens anonymes qui sont arrêtés, brutalisés, condamnés lorsqu'ils sont innocents et qui sont en prison.
Nous allâmes fêter notre victoire. Et je plongeais tout entière dans cet instant, car je savais qu'il aurait la vie courte. Le travail, la lutte, l'affrontement nous attendaient.
Je m'appelle Angela Yvonne Davis. J'ai 79 ans. Et les combats continuent à s'écrire.
Je m'appelle Angela Yvonne Davis. J'ai 30 ans. Je viens d'écrire mon autobiographie.
En 1974, lorsqu'elle est finalement acquittée, l'histoire veut que Toni Morrison prenne son avion pour aller tout de suite en Californie, pour la convaincre de signer son autobiographie. Elle se rate. Bon, et finalement, la rencontre aura lieu. Et quelle rencontre ? Entre, sans doute, la plus grande romancière, celle qui a établi la langue la plus juste sur ce qu'est être une femme noire américaine aux États-Unis et ce qui en est une incarnation, la guerrière, c'est la femme guerriero, Angela Davis. Et toutes les deux se rencontrent et Toni Morrison apporte la plume et apporte la langue de la politique à une femme qui n'était que combat. Angela Davis, elle veut pas écrire une autobiographie. Elle veut être dans la tradition de ce que Malcolm X fera aussi avec son éditeur, c'est-à-dire écrire un pamphlet, écrire un manifeste.
We must talk about how to build a movement here in the Bay Area to support and defend our sisters and brothers who were indicted as a result of the struggle at Wounded Knee.
Angela Davis, elle est surtout connue comme icône. C'est une icône, Angela Davis, c'est un look, c'est l'afro de la fin des années 60 et du début des années 70. C'est une arrestation, c'est une cause commune, c'est des manifestations, enfin toute une campagne de défense.
Maboula Soumaoro, universitaire.
Mais à mes yeux, Angela Davis, c'est un docteur en philosophie, c'est une enseignante-chercheuse qui a une longue carrière au sein de l'Université de Californie. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi donc sur des questions sociales, des questions liées au genre également, des questions culturelles. On oublie souvent les travaux qu'elle a fait sur les chanteuses de blues, par exemple. Et c'est quelqu'un qui continue aujourd'hui ses combats à la fois universitaires et sociopolitiques, on va dire. Donc elle est beaucoup plus vaste que l'image figée qui apparaît et continue de circuler dans l'iconographie de ce qui aurait représenté les militants africains-américains que l'on adore depuis la France, depuis ces années 60.
Moi, je me souviens, quand je lis « Femmes, race et classe », je me souviens que je vois une démonstration lumineuse, de la source de l'insatisfaction de certains de mes combats. Voilà. Moi, j'ai des engagements politiques très tôt, et je comprends qu'il est important à la fois vraiment d'aller à la racine des choses, parce que c'est comme ça qu'on chemine. La pensée d'Angela est holistique. Elle embrasse. Elle articule les choses entre elles, elle les met entre elles, et on comprend y compris ses réticences. Mais c'est la cohérence qu'il y a dans l'analyse des faits, le donner à voir des situations, et ce qu'elle en tire. Et c'est la même cohérence qu'il y a dans sa pensée sur le système carcéral, par exemple.
Je n'étais pas pressée d'écrire ce livre. Il semblait présomptueux d'entreprendre une autobiographie à mon âge. De plus, j'avais le sentiment que la description de ma vie, de ce que j'avais fait, de ce que je pensais et de ce qui m'était arrivé pouvait laisser présumer que j'étais différente des autres femmes noires et que j'avais donc besoin de m'en expliquer. Le seul événement extraordinaire de mon existence ne me concerne pas en tant qu'individu. Il suffisait d'une pirouette de l'histoire pour que toute autre sœur ou frère devienne cette prisonnière politique que des millions de gens à travers le monde ont sauvé de la persécution et de la mort. Je finis par décider d'écrire ce livre parce que je le considérais comme une autobiographie politique qui devait mettre l'accent sur les gens, les événements et les forces qui ont entraîné ma vie vers son engagement actuel. Il est possible qu'après l'avoir lu, les gens comprennent mieux pourquoi tant d'entre nous n'avaient pas d'autre choix que d'offrir leur vie, leur corps, leur savoir, leur volonté à la cause de notre peuple opprimé. À une époque où la corruption et le racisme des plus hautes instances politiques sont mises à nu et où la banqueroute de l'ensemble du système capitaliste devient une réalité, je voudrais donner envie aux gens de rejoindre cette communauté en lutte qui ne cesse de croître. Si j'y parviens, je considérerais que cette œuvre en valait la peine.
Mais vous savez, j'ai participé dans la lutte, bien sûr, avant mon emprisonnement. Mais après, pendant que j'étais en prison, des milliers de personnes partout dans le monde se sont battues pour moi. J'ai trouvé qu'après ma libération, je n'avais pas de choix, parce que s'il n'y avait pas ce mouvement, je serais en ce moment en prison, non pas en liberté. Alors, c'est quelque chose pour moi qui est une responsabilité.
Un des grands engagements de sa vie aussi, c'était de pouvoir déconstruire cette figure, d'une certaine façon, cette effigie qu'il a construite malgré elle. Donc il y a quelque chose de très intéressant, puisque elle-même va réfléchir à la façon dont cette série de modes vient d'une certaine manière contrecarrer toute une action politique collective qui était la sienne depuis toujours, d'une certaine façon.
La force du capitalisme, et notamment du néolibéralisme, c'est d'absorber, de marchandiser les choses.
Françoise Vergès, politologue.
À un moment donné, ça fait de la marchandise en plus. Ça fait des marchés en plus. Donc tout peut se transformer en marchandise. Parce que finalement, c'est toujours la même logique d'économie qui se met en place, de l'extraction. C'est-à-dire, au début, figure dangereuse, tout ça. Ah, mais ça peut être cool quand même, finalement. Tiens, on va s'en servir, ça peut être finalement cool. L'afro, au début, ça va pas, puis l'afro, ça peut devenir une mode, etc., etc. Et pendant ce temps-là, la structure ne change pas. La colonisation comme principe est au cœur du capitalisme. Il faut coloniser des terres, des corps, des images, des sons. pour en faire de la marchandise et aussi étendre ses publics, quoi, son public de consommateurs. Donc, ce qu'il y a, c'est que Angela, on peut dire qu'elle, elle refuse de se glisser là-dedans, mais il est vrai qu'il y a eu, comment dire, capture de son image. Donc, il y a une forme de représentation que le capitalisme accepte. La question, c'est de, est-ce que vous pouvez devenir une marchandise? Il n'y a plus de contenu, si on peut dire, vous voyez. Il n'y a plus que l'image.
Je pense que son image, comment dire, a moins entaché sa pensée que, par exemple, pour le Che, voilà, qu'on retrouve sur les t-shirts, à n'en plus finir, qui, pour le coup, on se dit que le capitalisme est quand même extrêmement fort, puisqu'il est capable d'attraper toutes les figures et en faire...
Paul Devaux, metteur en scène.
Et en faire, en fait, des produits marketing. Donc voilà, Angela Davis, c'est plus complexe. Effectivement, il y a une image qui traîne, mais elle n'a pas été autant récupérée. Elle n'a pas été autant abîmée, je pense. Et ça laisse encore un peu de place, je pense, à son intervention. Et puis, elle est vivante. Donc, elle fait des conférences dans le monde entier. Et puis, elle enseigne toujours à UCLA. Donc, c'est quelqu'un qui est encore présent et qui défend sa pensée. C'est là où elle est drôlement intéressante. C'est que c'est là où je pense qu'elle atténue, entre guillemets, un peu l'image que pourrait s'approprier le capitalisme. Elle est toujours présente dans la publication de ses pensées. Donc ça, c'est forcément, ça contrebalance l'image qu'on pourrait seulement avoir d'elle.
Not only in the sense that I am now out on bail, but it means that the legal apparatus can no longer hold political prisoners in prison for long months prior to trial and attempt by isolating them and in many other ways to break their will to fight.
It took me a while to come to the conclusion.
Il m'a fallu un moment pour arriver à la conclusion que si ces images sont bien moi, un moi plus jeune, elles ne me représentent pas nécessairement en tant qu'individu. Elles représentent davantage le mouvement qui a été généré par la campagne pour ma libération. Vous savez, à une époque, elles me gênaient. Je ne savais pas comment me situer par rapport à ces images. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème, parce que j'admets qu'elles représentent les demandes et les aspirations de millions de gens et répondent à des questions relatives au futur.
En tant que chanteuse, moi je dirais que sa voix, elle est hantée. Parce qu'elle a parlé à tellement de gens, elle a été en contact, elle a été en relation avec tellement de belles personnes. Donc c'est une voix qui est hyper posée parce que c'est une voix qui sait. Et c'est une voix qui est énormément bienveillante, qui a juste envie de faire en sorte que toi tu comprennes. Du coup, elle parle très lentement. Quand je dis très posée, c'est vrai qu'elle peut te raconter autant la non-violence qu'elle peut raconter les actions radicales militantes par la violence et les justifier pourquoi elles sont là avec le même ton, dans le même souffle, c'est sûr. Une belle voix, c'est... Pour moi, une belle voix, c'est une voix qui raconte la vérité. Et qui raconte la vérité avec l'intention de raconter la vérité. J'ai envie d'entendre ton intention.
I wear a coat on fire, a dress of lead. I said she like no other, grace bliss by trade. Dare you to wear this culture, this wealth I own. Look, ma, it looks like diamonds, each rock a song. Took what I had, made what I need. Took what I had, made what I need. Oh, 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 oh.
pense que l'image de Angela Davis a été construite d'une certaine manière tout au long de sa vie, à partir du moment où elle a été accusée, etc., par le gouvernement des États-Unis.
Paola Bacchetta, sociologue.
C'est intéressant l'histoire de son image parce qu'elle, elle ne se sent pas correspondre vraiment à cette iconisation, à l'image qu'on fait d'elle, que les gens ont beaucoup de fantasmes et qu'elle est une sorte d'écran presque sur lequel les gens projettent des choses. Elle a compris que pour les gens, c'est important d'avoir une personne à idéaliser. Pour eux, c'est une manière de focaliser le désir de la révolution, mais aussi des fantasmes racistes tels Angry Black Woman. Parce que ça, c'est l'image de la femme noire selon les racistes. Une femme qui est out of control. Une femme qui est très en colère, qui va tuer tout le monde, qui est terroriste, qui est... Tout cela, c'est historiquement l'image de raciste de la femme noire. Et donc, il y a une projection raciste et misogyne en vis-à-vis d'elle. On projette toutes ces caractéristiques à Angela, qui ne correspondent nullement à Angela. Oui, il faut dire qu'elle, elle est un peu ailleurs de toutes ces images, tous ces fantasmes des gens sur elle.
La question, c'est pas d'être une icône pour les gens, la question, c'est de savoir si on se pose comme icône. C'est ça qui est un sujet. Donc Angela est une icône, elle le demeure, même si effectivement elle-même se met en retrait, même si son discours continue à dire c'est collectivement, ce sont des états-majors qui doivent décider. Les luttes, elles sont menées collectivement, et c'est très bien quand il n'y a pas une figure qui émerge, etc. Bon, oui, c'est très très bien. Parfois, il y a des gens, c'est aussi un facteur de mobilisation. Lorsqu'il y a une figure qui émerge, la question, c'est la personne. Si la figure qui émerge est assez sotte pour penser qu'elle est exceptionnelle et se placer au-dessus des autres, d'ailleurs, elle chavire assez vite quand elle prend ce chemin-là. C'est une bonne punition.
Lisa Silberstein, commissaire d'exposition.
Les gens aiment l'exposition. Les gens aiment Angela. Angela occupe une place importante. Et je pense que l'un de nos objectifs dans cette exposition était de ne pas nous contenter d'exploiter cette relation particulière du public à Angela. Beaucoup de gens la voient comme une icône. Ils ne voient que l'image, son afro. Mais nous nous sommes vraiment intéressés à la vie d'Angela à Auckland. Elle a vécu très longtemps ici. Nous avons voulu l'humaniser et permettre aux gens de la voir comme une personne qui continue de creuser le même sillon. Et parce que nous sommes à Auckland, nous avons eu le privilège de pouvoir l'interviewer en 2019 pour que le public puisse l'entendre maintenant, aujourd'hui, et savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle écrit, ce dont elle parle. Nous avons donc inclus des citations contemporaines d'Angela dans l'exposition. Les gens savent que ces événements ont eu lieu à la fin des années 60 et au début des années 70, mais ils peuvent ainsi constater qu'elle continue à penser, à écrire et à s'exprimer sur les questions de justice sociale et les luttes actuelles de toutes les personnes opprimées. Ils peuvent aussi voir sa pensée évoluer. Dans l'interview, elle parle d'environnement, de droits des personnes LGBTQ, de féminisme et de la manière dont les choses ont changé depuis l'époque où elle a été jugée et relaxée, et de la nécessité de poursuivre le combat. Les œuvres sont très diverses. Il y a des pièces d'artistes du Black Power, d'autres d'artistes comme Faith Ringgold. Il y en a qui utilisent spécifiquement les mots « libérer Angela Davis » Et puis, il y a des œuvres plus conceptuelles. Il y a une œuvre que j'aime particulièrement d'une artiste nommée Kerry Schneider. Le film qu'elle a réalisé montre des femmes lisant des livres d'Angela Davis. Une caméra est simplement braquée sur elle et elle tourne lentement les pages. Et il n'y a pas un bruit. Il n'y a que cette œuvre vraiment belle et silencieuse. Je pense qu'elle démontre que le pouvoir d'Angela Davis est dans les mots. Ces femmes lisent des livres qui ont été écrits au début de la carrière d'Angela Davis. Et ces livres sont toujours lus aujourd'hui. Les mots sont si puissants quand il s'agit de diffuser ces idées qui durent et influencent de nouvelles générations de lecteurs.
Le 29 juin 1972, New York.
Mes sœurs, mes frères, c'est un moment vraiment merveilleux. J'étais bien loin d'imaginer, il y a 22 longs mois, que ce soir, des milliers de personnes seraient réunies ici, au Madison Square Garden, pour fêter cette éclatante victoire du peuple.
Angela Davis, troisième épisode, Superstar. Avec Sylvie Laurent, historienne, Elvan Zabounian, historienne de l'art, Christiane Taubira, femme politique, David Marcus, journaliste, Gilles Leroy, écrivain, Mélissa Lavaux, musicienne, Maboula Soumaoro, universitaire, Françoise Vergès, politologue, Paul Desvaux, metteur en scène, Paola Baqueta, sociologue, Lisa Silberstein, commissaire d'exposition. Lecture de l'autobiographie d'Angela Davis par la comédienne Gusla Jimalanda, avec les voix de Mike Dara, Emmanuel Collardet, Jean Lemarie et Barbara Keita. Extrait du film Free Angela de Chola Lynch. Remerciements Madly O'Byrne et Masha Perchey. Traduction Thierry Beauchamp. Archivina Mylène Touché. Documentation Anne-Lise Signoré. Documentation musicale Antoine Villos. Prise de son Romain Luquins et Delphine Baudet. Mixage Manuel Couturier. Collaboration Maria Massila. Coordination Christine Bernard. Une grande traversée de Sébastien Thème et d'Ifi Mariani. Music when you speak, you're so unique.